Chapitre 19. La génisse rousse. Une image de la perfection de Christ. Ce chapitre nous présente l'institution profondément intéressante et instructive de la génisse rousse. Dans les 7 premiers chapitres du Lévitique, nous avons un exposé détaillé des divers sacrifices, et cependant, il n'y est fait aucune allusion à la génisse rousse. Pourquoi cette belle ordonnance est-elle présentée dans le livre des Nombres et nulle part ailleurs? Nous croyons que ce fait est en rapport avec le caractère distinctif de notre livre. La génisse rousse est un type qui appartient éminemment au désert. Elle nous parle des ressources de Dieu à l'égard des souillures du chemin. Elle typifie la mort de Christ comme purification des péchés et comme réponse à tous nos besoins pendant le pèlerinage à travers un monde corrompu, jusqu'à ce que nous arrivions à notre patrie céleste. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant, « C'est ici le statut de la loi que l'Éternel a commandé en disant, « Parle aux fils d'Israël et qu'il t'amène une génisse rousse, sans tare, qui n'ait aucun défaut corporel et qui n'ait point porté le joug. » Versets 1 et 2. Le Seigneur Jésus n'était pas seulement sans tache dans sa sainte personne, mais il ne porta jamais le joug du péché. Le Saint-Esprit est toujours un gardien jaloux de la gloire du Christ, prenant plaisir à nous le présenter dans toute son excellence et sa valeur suprême. Voilà pourquoi chaque type et chaque image destinée à le présenter témoigne de cette extrême sollicitude. Par la génisse rousse, il nous est rappelé que notre Sauveur n'était pas seulement, quant à sa nature humaine, intrinsèquement pur et sans tache, mais que, quant à sa naissance et à ses relations de famille, il s'était aussi maintenu parfaitement net de toute trace et de toute apparence de péché. Jamais le joug de l'iniquité ne pesa sur son cou. Quand il parlait de son joug, Matthieu 11, verset 29, c'était le joug d'une soumission entière à la volonté du Père en toute chose. C'est le seul joug qu'il porta et qui ne le quitta jamais un seul instant, depuis la crèche où, faible et petit enfant, il reposait, jusqu'à la croix où il expira comme victime. S'il monta sur la croix pour expier nos péchés et pour poser le fondement de notre purification, il le fit comme celui qui n'avait jamais porté le joug du péché. Il était sans péché, et comme tel, il était parfaitement capable de faire la grande et glorieuse œuvre de l'expiation. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ était exempt de toute trace de péché. En aucune manière que ce soit, il ne fut assujetti aux exigences du péché ou de la mort. Il vécut en toute réalité nos circonstances et notre condition. Mais il n'y avait pas en lui de péché, et le joug n'en pesa point sur lui. Christ victime, puis sacrificateur. Et vous la donnerez à Éléazar, le sacrificateur, et il la mènera hors du camp, et on l'égorgera devant lui. Verset 3. Nous avons dans le sacrificateur et dans la victime un double type de la personne de Christ. Il était à la fois victime et sacrificateur. Cependant, il n'entra pas dans ses fonctions sacerdotales avant que son œuvre comme victime soit accomplie. C'est ce qui explique l'expression de la fin du verset 3 « On l'égorgera devant lui ». La mort de Christ a eu lieu sur la terre. Elle ne peut pas être représentée comme un acte de la sacrificature, puisque le ciel, non la terre, est la sphère de son service de sacrificateur. L'apôtre, dans l'Épître aux Hébreux, déclare expressément que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté, dans les cieux, ministre des lieux saints, et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, non pas l'homme. Car tout souverain sacrificateur est établi pour offrir des dons et des sacrifices. C'est pourquoi il était nécessaire que celui-ci aussi eût quelque chose à offrir. Si donc il était sur la terre, il ne serait pas sacrificateur, puisqu'il y a ceux qui offrent des dons selon la loi. Hébreux 8, versets 1 à 4. Car le Christ n'est pas entré dans des lieux saints faits de mains, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux 9, verset 24. Mais celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Hébreux 10, verset 12. Ces passages, mis en regard de Nombre 19, verset 3, nous enseignent deux choses. Savoir que la mort de Christ n'est pas présentée comme l'acte particulier et ordinaire de son ministère sacerdotal, et, de plus, que le ciel, non pas la terre, est la sphère de ce ministère. N'est-il pas profondément intéressant de trouver une vérité qui brille avec éclat dans les pages du Nouveau Testament, impliquée dans quelque ordonnance ou cérémonie de l'Ancienne Alliance? Il est écrit « Et on l'égorgera devant lui », parce que la mort de Christ ne pouvait pas être représentée comme un acte de la sacrificature. Hors du camp. Le lieu où s'accomplissait la mort de la victime doit encore attirer notre attention. Il la mènera hors du camp, verset 3. Jésus a souffert hors de la porte. C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sanctifiât le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Hébreux 13, verset 12. Il a pris une position de séparation absolue, et c'est de là que sa voix s'adresse à nos cœurs. Ne devrions-nous pas considérer plus sérieusement la place où Jésus est mort ? Voulons-nous nous contenter de recueillir les bénéfices de sa mort, sans chercher à avoir communion avec lui dans sa réjection ? Ainsi donc, sortons vers lui, hors du camp, portant son opprobre. Verset 13. Il y a une immense puissance dans ces paroles. Elles devraient stimuler tout notre être moral et spirituel à rechercher une identification plus complète avec notre Sauveur rejeté. Chercherons-nous un nom, une position, les honneurs, les richesses, dans ce monde d'où notre Seigneur et notre Maître a été rejeté? Dans un monde qui, encore aujourd'hui, ne tolérerait pas ce bien-aimé auquel nous devons notre félicité présente et éternelle? Lorsque nous considérons la mort de Christ, nous voyons deux choses. La mort d'une victime et la mort d'un martyr. Une victime pour le péché, un martyr pour la justice. Il souffrit pour le péché afin que nous ne souffrions jamais ainsi. Mais ses souffrances comme martyr, ses souffrances pour la justice sous la main de l'homme, celles-là nous pouvons les partager. Parce qu'à vous, il a été gratuitement donné, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Philippiens 1, verset 29. Estimons-nous comme un don d'avoir à souffrir pour Christ? En contemplant la mort de Christ telle qu'elle est typifiée dans l'ordonnance de la génisse rousse, nous voyons non seulement la suppression complète du péché, mais aussi le jugement du présent siècle mauvais. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Galates 1, verset 4. Les deux choses sont ici réunies, et nous ne devrions jamais les séparer. Nous avons le jugement du péché, puis le jugement de ce monde. Le premier donne un parfait repos à la conscience, tandis que l'autre délivre le cœur des influences séductrices du monde. L'un purifie la conscience de tout sentiment de culpabilité, l'autre brise les chaînes qui lient le cœur au monde. Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. C'est une affirmation des plus précieuses pour une âme troublée. Elle résout toute la question de nos péchés. Si Christ s'est donné lui-même pour mes péchés, il ne me reste qu'à me réjouir dans le fait merveilleux que mes péchés sont tous effacés. Celui qui a pris ma place, qui s'est chargé de mes péchés, qui a souffert pour moi, est maintenant à la droite de Dieu, couronné de gloire et d'honneur. Cela me suffit. Mes péchés sont ôtés pour toujours. S'ils ne l'étaient pas, Christ ne serait pas là où il est actuellement. Une paix parfaite est mon partage, une paix aussi parfaite que l'œuvre de Christ peut la rendre. Mais n'oublions jamais que la même œuvre qui a pour toujours enlevé nos péchés nous a retirés de ce présent siècle mauvais. Elle nous en a arrachés. Les deux choses vont ensemble. Christ m'a non seulement délivré des conséquences de mes péchés, mais aussi de la puissance actuelle du péché ou des exigences et des influences de ce système que l'Écriture appelle le monde. La purification par le sang de Christ. Et Éléazar, le sacrificateur, prendra de son sang avec son doigt et fera aspersion de son sang 7 fois, droit devant la tente d'assignation. Verset 4. Nous avons ici le solide fondement de toute véritable purification. Le type que nous avons sous les yeux traite seulement une question de sanctification pour la pureté de la chair. Hébreux 9, verset 13. Mais nous devons voir l'antitype au-delà du type, la réalité au-dessus de l'ombre. Dans la septuple aspersion du sang de la génisse rousse devant la tente d'assignation, nous avons une figure de la présentation parfaite du sang de Christ à Dieu, comme le seul lieu de rencontre entre Dieu et la conscience. Le nombre 7, comme nous le savons, exprime une perfection divine. Ici, c'est la mort de Christ en propitiation pour le péché, présentée à Dieu dans toute sa perfection et acceptée comme telle par Dieu. Tout repose sur ce principe divin. Le sang a été répandu, puis il a été présenté à un Dieu saint comme une parfaite expiation pour le péché. Ceci, reçu simplement par la foi, délivre la conscience de tout sentiment de culpabilité, de toute crainte de condamnation. Nos péchés ont été complètement effacés par le sang précieux de Christ. Il n'y a plus rien devant Dieu que la perfection de l'œuvre expiatoire de Christ. Le lecteur doit remarquer qu'il n'y a aucune autre allusion à l'aspersion du sang dans tout ce chapitre, et ce fait est précisément en accord avec la doctrine de l'Épître aux Hébreux. Le sacrifice de Christ étant parfait et accepté, il n'est pas besoin de le répéter. Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de boucs et de taureaux et la cendre d'une génisse avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés sanctifient pour la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, versets 11 à 14. Remarquez la force de ces mots, une fois pour toutes, et éternel. Il montre la perfection et l'efficacité du sacrifice de Christ. Le sang a été versé une fois pour toutes et pour toujours. Il était donc nécessaire que les images des choses qui sont dans les cieux fussent purifiées par de telles choses, mais que les choses célestes elles-mêmes le fussent par de meilleurs sacrifices que cela. Car le Christ n'est pas entré dans des lieux saints faits de main, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu, ni non plus afin de s'offrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints, chaque année, avec un sang autre que le sien, puisque dans ce cas il aurait fallu qu'il souffrît plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, en la consommation des siècles, il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Hébreux 9, versets 23 à 26. Le péché a donc été aboli. Il ne peut pas être aboli et être en même temps sur la conscience du croyant. Ceci est parfaitement établi par les versets 27 et 28 qui terminent le chapitre. Comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela le jugement, ainsi le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché, à salut à ceux qui l'attendent. Il y a quelque chose de merveilleux dans le soin patient avec lequel le Saint-Esprit présente le sujet tout entier. Il expose et développe la grande doctrine de la perfection du sacrifice, et cela de manière à convaincre l'âme et à soulager la conscience. Dans sa grâce surabondante, Dieu a exposé toute la question de façon à ne laisser place à aucune objection. Car la loi ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, rendre parfait ce qui s'approche. Autrement, n'eussent-ils pas cessé d'être offerts, puisque ceux qui rendent culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de péché. Mais il y a dans ces sacrifices, chaque année, un acte remémoratif du péché, car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. Hébreux 10, versets 1 à 4. Mais ce que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait jamais faire, le sang de Jésus l'a fait pour toujours. Tout le sang qui a coulé autour des autels d'Israël n'a jamais pu effacer une seule tache de la conscience, ni donner à Dieu qui haïssait le péché le droit de recevoir un pécheur. Il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit « Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Il est écrit de moi dans le rouleau du livre « Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Hébreux 10, versets 5 à 10. Remarquez le contraste. Dieu ne prenait pas plaisir à la série continuelle de sacrifices offerts sous la loi. Ces sacrifices laissaient entièrement inaccompli ce qu'il avait à cœur de faire pour son peuple, savoir de les délivrer complètement du lourd fardeau du péché et de les amener à lui dans une parfaite paix de conscience et liberté de cœur. C'est ce que Jésus a fait par l'offrande de son sang précieux. Il a fait la volonté de Dieu et il n'a pas à recommencer son œuvre. L'homme peut refuser de croire que l'œuvre soit faite, refuser d'entrer dans le repos qu'elle est propre à communiquer, de jouir de la sainte liberté d'esprit qu'elle est capable de procurer, mais l'œuvre demeure offerte à notre foi selon son impérissable valeur devant Dieu. Aucune des suggestions ténébreuses de Satan, ni aucun de nos propres raisonnements incrédules, ne peuvent jamais porter atteinte à la vérité de Dieu. Ils peuvent empêcher nos âmes de jouir de la grâce, et ils le font, hélas. Mais la vérité reste toujours la même. Et tout sacrificateur se tient debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, versets 11 à 14. C'est en vertu du sang de Christ que nous avons été rendus parfaits pour toujours. Ineffable privilège. Le Saint-Esprit, ainsi que nous l'avons vu par diverses citations tirées de l'Épître aux Hébreux, n'a rien omis pour satisfaire nos âmes quant à la question de la complète abolition du péché par le précieux sang de Christ. Pourquoi donc ne pourrions-nous pas, en ce moment, jouir d'une paix de conscience parfaite et certaine? Certaines personnes sont plus occupées de leurs pensées et de leurs sentiments sur le sang de Christ que de ce sang lui-même et des pensées de Dieu sur ce sang. Que de telles personnes réfléchissent sérieusement à ceci. Si le sang a été parfaitement présenté à Dieu, si Dieu l'a accepté, s'il s'est glorifié lui-même en abolissant le péché, alors qu'avons-nous d'autre à faire que de trouver un repos parfait dans ce qui a satisfait tous les droits de Dieu, en harmonie avec tous ses attributs? Ce sang a établi le merveilleux terrain où peuvent se rencontrer un Dieu haïssant le péché et un pauvre pécheur perdu. Vouloir introduire la question de notre appréciation du sang de Christ, c'est faire comme si son œuvre n'était pas complète sans quelque chose qui vienne de nous. Reposons-nous sur Christ seul et réjouissons-nous dans la perfection de son œuvre plutôt que de nous tourmenter à regarder l'imperfection de nos pauvres sentiments. Oui, nous avons ici le fondement stable de la purification des péchés et de la paix parfaite pour la conscience. Tout est accompli. Christ, celui dont la génisse rousse est le type, est mort sur la croix. Il s'est livré à la mort sous le courroux et le jugement d'un Dieu juste, afin que tous ceux qui mettent simplement leur confiance en lui puissent connaître, dans le secret profond de leurs âmes, la purification divine et la paix parfaite. Nous sommes purifiés quant à la conscience, non point par nos pensées sur le sang, mais par le sang lui-même. Les cendres de la génisse. Si, dans le sang, nous avons la mort de Christ en sacrifice comme purification du péché, dans les cendres, nous avons le souvenir et l'efficacité de cette mort appliquée au cœur par l'Esprit, au moyen de la parole, afin d'enlever les souillures contractées dans notre marche journalière. Ceci ajoute une grande perfection et une grande beauté au type de la génisse rousse. Dieu n'a pas seulement pourvu au péché passé, mais aussi à la souillure actuelle, afin que nous puissions toujours être devant lui dans toute la valeur de l'œuvre parfaite de Christ. Dieu veut que nous nous tenions devant lui comme ayant été rendus entièrement purs. Non seulement lui-même nous voit ainsi, mais il voudrait que nous en fassions autant dans notre conscience intime. Il voudrait nous donner par son esprit, au moyen de la parole, un sentiment profond de notre pureté à ses yeux, afin que le courant de notre communion avec lui puisse couler limpide et sans obstacle. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous négligeons cela, et que dans notre oubli nous touchions à des choses impures, comment notre communion sera-t-elle rétablie? Seulement par l'enlèvement de la souillure. Et comment doit-il s'effectuer? Par l'application à nos cœurs et à nos consciences de la précieuse vérité de la mort de Christ. Le Saint-Esprit produit le jugement de nous-mêmes et rappelle à notre souvenir que Christ a souffert la mort pour les souillures que nous contractons souvent si légèrement. Il ne s'agit pas d'une nouvelle aspersion du sang de Christ, mais du souvenir de sa mort, apporté à nos cœurs contrits par une puissance nouvelle, par le ministère du Saint-Esprit. Et on brûlera la génisse devant ses yeux. Et le sacrificateur prendra du bois de cèdre et de l'hysope et de l'écarlate et les jettera au milieu du feu où brûle la génisse. Et un homme pur ramassera la cendre de la génisse et la déposera hors du camp en un lieu pur, et elle sera gardée pour l'assemblée des fils d'Israël comme eau de séparation. C'est une purification pour le péché. Versets 5 à 9. Le désir de Dieu est que ses enfants soient purifiés de toute iniquité et qu'ils marchent dans la séparation de ce présent siècle mauvais où tout est mort et corruption. Cette séparation se produit par l'action de la parole sur le cœur, par la puissance du Saint-Esprit. Grâce et paix à vous de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Galates 1, versets 3 et 4. Et encore, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il nous racheta de toute iniquité et qu'il purifia pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2, versets 13 et 14. Il est remarquable de voir comment l'Esprit de Dieu lie constamment et intimement la libération de notre conscience de tout sentiment de culpabilité à la délivrance de l'influence morale de ce présent siècle mauvais. Or, nous devrions avoir grand soin de maintenir ce lien. Naturellement, nous ne pouvons le faire que par l'énergie du Saint-Esprit. Mais nous devrions chercher ardemment à comprendre et à montrer en pratique le lien qui existe entre la mort de Christ considérée comme expiation pour le péché et sa mort comme motif et puissance morale pour notre séparation d'avec ce monde. Grand nombre d'enfants de Dieu ne vont jamais au-delà de la première vérité. Ils se contentent de la connaissance du pardon des péchés par l'œuvre expiatoire de Christ, sans réaliser leur mort au monde en vertu de la mort de Christ et de leur identification avec lui dans cette mort. En réfléchissant à la génisse rousse consumée par le feu, examinons cet amas de cendres. Qui découvrons-nous? Nous y trouvons nos péchés. En effet, grâce soit rendue à Dieu et au Fils de son amour, nous trouvons nos péchés, nos iniquités, nos fautes, notre profonde culpabilité, tout cela réduit en cendres. En plus, nous y voyons la nature humaine dans chaque aspect de son existence, du plus haut jusqu'au plus bas. Nous y voyons la fin de toute la gloire de ce monde. Le cèdre et l'hysope représentent la nature dans toute son étendue, depuis ce qu'elle a de plus élevé à ce qu'elle a de plus infime. Salomon parla sur les arbres, depuis le cèdre qui est sur le Liban, jusqu'à l'hysope qui sort du mur. 1 Roi 4, verset 33. L'écarlate est l'expression de la splendeur humaine, de la gloire de ce monde. Nous voyons donc dans les cendres, résidus de l'incinération de la génisse, la fin de toute grandeur mondaine, de toute gloire humaine et la mise de côté de la chair avec tout ce qui lui appartient. Ceci rend l'acte de brûler la génisse profondément significatif et rappelle une vérité trop peu connue et trop vite oubliée quand elle est connue, vérité exprimée en ces termes par l'apôtre, mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié et moi au monde. Galates 6, verset 14. Tout en acceptant la croix comme base de la délivrance, de toutes les conséquences de nos péchés et de notre pleine acceptation par Dieu, nous sommes enclins à la refuser comme base de notre complète séparation du monde. Cependant, la croix nous a séparés, à jamais, de tout ce qui appartient au monde que nous traversons. Mes péchés sont-ils abolis? Oui, béni soit le Dieu de toute grâce. En vertu de quoi? En vertu de la perfection du sacrifice expiatoire de Christ, selon l'estimation de Dieu lui-même. Or, c'est précisément dans la même mesure que nous trouvons, dans la croix, notre délivrance de ce présent siècle mauvais, de ses habitudes et de ses principes. Le croyant n'a absolument rien de commun avec ce monde dès qu'il réalise la signification et la puissance de la croix du Seigneur Jésus. Cette croix a fait de lui un étranger dans ce monde. La vue de la croix rendait Paul capable d'estimer comme de la boue le monde, ses formes les plus attrayantes et ses gloires les plus brillantes. « Le monde m'est crucifié, dit-il, et moi au monde. » Tel était Paul. Tel devrait être chaque chrétien. Un étranger sur la terre, un citoyen du ciel, et cela non seulement en principe ou en théorie, mais de fait et en réalité. Car si notre délivrance de l'enfer est plus qu'un simple principe ou qu'une théorie, notre séparation de ce présent siècle mauvais doit tout aussi sûrement être un fait réel. Pourquoi donc, parmi les chrétiens, n'insiste-t-on pas davantage sur cette grande vérité pratique? Pourquoi sommes-nous si lents à nous exhorter les uns les autres quant à la puissance de séparation que comporte la croix du Christ? Si mon cœur aime Jésus, je ne chercherai pas une place ou un nom là où il a été rejeté et crucifié. Le monde est toujours le monde. Souvenons-nous qu'un des artifices spéciaux de Satan est de conduire les hommes qui ont trouvé le salut par Christ à méconnaître ou à renier leur identification avec lui dans sa réjection. On se prévaut de l'œuvre expiatoire de la croix tout en s'établissant à son aise dans un monde coupable d'avoir cloué Christ à cette croix. Si nous aimions réellement notre Sauveur, il n'en serait pas ainsi. L'eau de purification. Sur les cendres de la génisse, on versait de l'eau vive, et le tout était conservé dans un vase pour la purification. Verset 17. Quel était donc l'emploi et la destination de cette eau? Celui qui aura touché un mort, un cadavre d'homme quelconque, sera impur 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour, et le 7e jour il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour, alors il ne sera pas pur le 7e jour. Quiconque aura touché un mort, le cadavre d'un homme qui est mort, et ne se sera pas purifié, a rendu impur le tabernacle de l'Éternel, et cette âme sera retranchée d'Israël, car l'eau de séparation n'a pas été répandue sur elle, elle sera impure, son impureté est encore sur elle. Versets 11 à 13. Dieu ne peut tolérer aucune impureté en ceux avec lesquels il daigne marcher et avec lesquels il habite. Il peut pardonner et ôter les péchés, il peut guérir, purifier et restaurer, mais il ne peut pas tolérer, chez son peuple, un mal qui n'est pas jugé. S'il le faisait, il renierait son nom et sa nature même. C'est notre joie d'avoir affaire à celui dont la présence réclame et assure la sainteté. Nous traversons le monde où nous sommes entourés d'influences corruptrices. La vraie souillure ne se contracte pas maintenant en touchant un mort, ou un ossement d'homme ou un sépulcre. Ces choses étaient des types de choses morales et spirituelles avec lesquelles nous sommes en danger d'être en contact à chaque instant. Ceux qui ont beaucoup à faire avec les choses de ce monde ressentent, d'une manière pénible, l'immense difficulté d'en sortir avec des mains pures. De là l'urgente nécessité d'une grande vigilance dans toutes nos habitudes et nos relations, de peur que nous ne contractions des souillures qui interromperaient notre communion avec Dieu. Il veut nous avoir dans un état digne de lui-même. « Soyez saints, car moi je suis saint. » 1 Pierre 1, verset 16. Si nous désirons réellement progresser dans la vie chrétienne, croître dans la sainteté personnelle, prenons garde de ne pas marcher même une seule heure en contact avec ce qui souille nos mains, blesse notre conscience, attriste le Saint-Esprit et détruit notre communion avec Dieu. Soyons résolus. Ayons un cœur entier. Renonçons immédiatement à toute chose impure, quoi qu'il en coûte, quelque perte que cela entraîne. Aucun avantage terrestre ne peut compenser la perte d'une conscience pure, d'un cœur tranquille et de la jouissance de la clarté de la face de notre Père. Et que doit-on faire lorsqu'on a réellement contracté une souillure? Comment doit-on l'enlever? Écoutons le langage figuré du chapitre 19 des Nombres. Et on prendra, pour l'homme impur, de la poudre de ce qui a été brûlé pour la purification, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Et un homme pur prendra de l'hysope, et la trempera dans l'eau, et en fera aspersion sur la tente, et sur tous les ustensiles, et sur les personnes qui sont là, et sur celui qui aura touché l'ossement, ou l'homme tué, ou le mort, ou le sépulcre. Et l'homme pur fera aspersion sur l'homme impur, le troisième jour, et le septième jour. Et il le purifiera le septième jour. Et il lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Versets 17 à 19. Il y a deux actions présentées dans les versets 12 et 19, celle du troisième jour et celle du septième. Que figurent-elles? Lorsque par manque de vigilance et d'énergie spirituelle nous touchons une chose impure et que nous sommes souillés, nous pouvons l'ignorer. Mais Dieu connaît tout à ce sujet. Il s'en inquiète pour nous et il veille sur nous, non pas comme un juge irrité, mais comme un tendre père qui ne nous imputera jamais rien parce que tout a été dès longtemps imputé à celui qui est mort à notre place. Néanmoins, il ne manquera pas de nous le faire sentir. Le Saint-Esprit nous rappelle notre péché, ce qui nous cause un profond travail de cœur, qui peut durer quelques instants ou bien des jours, des mois ou des années. Nous croyons que cette opération convaincante du Saint-Esprit est représentée par l'action du troisième jour. Puis le Saint-Esprit nous rappelle et applique à nos âmes la valeur de la mort de Christ comme ce qui a déjà répondu à la souillure que nous avons contractée. Ceci répond à l'action du septième jour, enlève la souillure et rétablit notre communion. Et qu'on se souvienne bien que nous ne pouvons jamais nous débarrasser de la souillure d'aucune autre manière. Ne cherchons pas à laisser au temps le soin de l'effacer de notre mémoire. Il n'y a rien de plus désastreux que de traiter ainsi la conscience et les droits de la sainteté de Dieu. Cela est aussi insensé que dangereux, car Dieu, dans sa grâce, a pleinement pourvu à l'enlèvement de l'impureté que sa sainteté découvre et condamne. Si l'impureté n'est pas ôtée, la communion est impossible. Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. Jean 13, verset 8. La communion peut être interrompue par une seule pensée coupable. Il faut donc que cette pensée coupable soit jugée et confessée, afin que la souillure soit enlevée et la communion rétablie. Que le Seigneur nous donne de marcher paisiblement et avec soin dans la vigilance et la prière, jusqu'à ce que nous ayons déposé nos corps de péché et de mort, et que nous soyons entrés dans le séjour brillant où le péché, la souillure et la mort sont inconnus. La sainteté et la grâce de Dieu. Dans toutes ces institutions de la loi, nous voyons à la fois la sainteté de Dieu et sa grâce. Si la sainteté divine ne pouvait souffrir aucune souillure sur le peuple, la grâce divine pourvoyait amplement à la purification. Ces soins se montrent dans notre chapitre sous deux formes, le sang expiatoire et l'eau d'aspersion. Précieuses ressources. Si nous ne connaissions pas les immenses richesses de la grâce de Dieu, les droits de sa sainteté seraient suffisants pour nous écraser. Tandis qu'étant assurés de la grâce, nous pouvons nous réjouir de tout notre cœur dans la sainteté. Un Israélite pouvait trembler en entendant ces paroles. « Celui qui aura touché un mort, un cadavre d'homme quelconque, sera impur 7 jours. » Et encore, « Quiconque aura touché un mort, le cadavre d'un homme qui est mort et ne se sera pas purifié, a rendu impur le tabernacle de l'Éternel, et cette âme sera retranchée d'Israël. Mais les cendres de la génisse brûlée et l'eau d'aspersion lui fournissaient le moyen que Dieu lui-même avait préparé pour le purifier. Et il pouvait s'appuyer sur l'efficacité de ce moyen. Nous sommes, par la grâce de Dieu, au bénéfice de la pleine valeur de la mort de Christ, mais nous sommes environnés de toutes parts par les tentations et les pièges auxquels répondent les tendances de la chair qui est encore en nous. Et de plus, nous avons un adversaire puissant, toujours aux aguets pour nous surprendre et nous conduire hors du sentier de la vérité et de la pureté. Ainsi exposés, nous ne pourrions pas avancer un seul instant si notre Dieu, dans sa grâce, n'avait pourvu à toutes nos nécessités par la mort du Seigneur Jésus et par sa médiation toute-puissante. Non seulement le sang de Christ nous a lavés de tous nos péchés et réconciliés avec un Dieu saint, mais encore nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. 1 Jean 2, verset 1. Il est toujours vivant pour intercéder pour nous, et il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Hébreux 7, verset 25. Il est toujours en la présence de Dieu pour nous. Il y est notre représentant et nous maintient dans la position et dans la relation dans lesquelles sa mort expiatoire nous a placés. Lorsque nous pensons à la mort expiatoire de Christ et à son intercession en notre faveur, quelle influence cela doit-il exercer sur nos âmes? Cela va-t-il nous conduire à tenir pour rien le péché et à nous rendre légers à son sujet? L'homme qui peut voir dans les riches ressources de la grâce divine une excuse pour la légèreté de conduite ou la frivolité d'esprit montre qu'il connaît très peu ou pas du tout la vraie nature de la grâce, son influence et ses ressources. Les cendres de la génisse ou l'eau d'aspersion pouvaient-elles avoir pour effet de rendre un Israélite insouciant quant à sa marche? Assurément non. Au contraire, le fait même d'une telle obligation pour ôter la souillure devait lui faire sentir combien c'était une chose sérieuse de la contracter. Le tas de cendres déposé dans un lieu pur offrait un double témoignage. Il témoignait de la bonté de Dieu et de la nature odieuse du péché. Il déclarait que Dieu ne pouvait pas souffrir l'impureté au milieu de son peuple, mais il déclarait aussi que Dieu avait pourvu au moyen d'enlever la souillure. Béni soit le Dieu de toute grâce. Il a pourvu à tous nos besoins d'une manière parfaite et non de manière à nous rendre insouciants, mais vigilants. Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Puis il ajoute, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste, et lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. 1 Jean 2, versets 1 et 2. Celui qui s'occupe de l'impureté. Encore un mot sur les derniers versets de ce chapitre. Et ce sera pour eux un statut perpétuel, et celui qui aura fait aspersion avec l'eau de séparation lavera ses vêtements, et celui qui aura touché l'eau de séparation sera impur jusqu'au soir, et celui qui l'aura touché sera impur jusqu'au soir. Versets 21 et 22. Au verset 18, nous avons vu qu'il fallait une personne pure pour faire aspersion sur une personne impure. Pour amener un autre à jouir de la vertu purifiante de l'œuvre de Christ, nous devons en jouir nous-mêmes. Ici, nous voyons qu'on était rendu impur par le seul fait d'avoir contact avec l'eau de séparation. Nous apprenons par là que celui qui a affaire avec le péché d'autrui est souillé, bien qu'il y touche par devoir et pour purifier son prochain. Nous ne pouvons pas toucher au péché sans être souillés. Puissions-nous vivre habituellement dans le sentiment de la pureté parfaite où la mort de Christ nous a introduits et dans laquelle son œuvre de sacrificateur nous maintient. N'oublions jamais que le contact du mal souille. Il en était ainsi sous l'économie mosaïque, et il en est encore ainsi maintenant.